Oui, bonjour. Alors, c'est la bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours. Et moi, mon truc, c'est la BD. Donc, tout à l'heure, je vous parlerai de BD.
Aujourd'hui, sur Radio Campus Tours, on fait escale à la bibliothèque de Tours.
Excusez-moi, je dis que des bêtises. Les yeux de Mélissa que je dis que des bêtises.
Des BD, des mangas, en vois-tu, en voilà, à la bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours.
.com. Je voudrais parler de Popeye.
Eh bien, Mélissa, nous voulions te parler de Soundbreaking. Soundbreaking, c'est un coffret de DVD. Au départ, c'était diffusé sur Arte. Et donc, ça a été édité en coffret DVD que vous pouvez retrouver à la Centrale et aux Fontaines. Et Soundbreaking, le sous-titre, c'est la grande aventure de la musique enregistrée. Donc ça, c'est déjà une bonne entrée en matière, je trouve. C'est issu d'une série qui était une série documentaire américaine qui s'appelait Soundbreaking Stories from the Cutting Edge of Recorded Music. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au départ, il y avait 8 émissions sur la version américaine et qui ont été condensées en 6 dans la version française. Et avant de laisser la parole un petit peu à Guillaume, ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'ils ont vraiment retourné des épisodes pour la version française, parce que dans la version américaine, forcément, il y avait des grands noms de la musique anglo-saxonne, mais là, on a vraiment aussi la fine fleur des icos et producteurs et fous de son français dans cette version. Voilà, donc je peux un petit peu laisser la parole à Guillaume à ce stade-là.
C'est assez rigolo de constater qu'il y a des remontages et des versions un petit peu différentes en fonction des différents pays récepteurs. Par exemple, l'Auberge du Cheval Blanc, qui était une opérette qui a eu beaucoup de succès en France et qui a connu plusieurs versions. Elle avait été réduite de 3 à 2 actes. Il y avait des numéros qui ont été modifiés, ajoutés.
On est un petit peu là-dedans.
Moi, j'avais, quoique le propos soit intéressant, j'avais été un petit peu déçu parce que il y a un épisode en particulier sur l'émergence des musiques électroniques et qui propose un éclairage vraiment restreint sur les débuts de l'électronique et qui parle pas beaucoup du classique alors que elle est vraiment là, dans la facture d'instruments, le thérémine, les ondes Martenot.
Et puis tout le travail de la musique concrète, la musique électroacoustique.
Qui n'est pas forcément glam quand tu la présentes comme ça, mais qui est quand même.
Il est évoqué, mais c'est vrai qu'on est plutôt sur les musiques dites actuelles. Ce terme assez atroce qui couvre à la fois le rock, la chanson, le R&B, parfois même le jazz. Bon, déjà, moi, je vais essayer de partir des 6 DVD, parce que vous allez voir que ça, c'est assez parlant, rien que par les titres qui sont assez poétiques. Le premier, c'est La Fée Électricité. La Fée Électricité, en fait, c'est un petit peu la genèse de la musique enregistrée. Par définition, la musique, on a toujours eu dans l'histoire de l'humanité. A priori, les hommes ont toujours fait de la musique, mais jusque-là, elle n'était jamais enregistrée. Elle pouvait être écrite, elle pouvait être transmise, bien entendu, transmise oralement, mais là, pour la première fois dans l'histoire, on pouvait la fixer. Ce qui est en fait une révolution complètement dingue.
Elle a été enregistrable avant d'être lisible.
Alors vas-y, raconte-nous ça.
Il y avait des pionniers qui étaient fascinés par le fait de pouvoir enregistrer le son d'une façon graphique, on va dire. Et donc c'est Scott de Martinville, qui était un Français, qui a été un des tout premiers, si ce n'est le premier, à pouvoir, avec un stylet, graver un sillon sonore dans du noir de fumée. Mais évidemment, ce qu'il a enregistré n'était pas lisible. Et c'est seulement beaucoup plus tard, avec des technologies numériques qui ont été utilisées de façon assez astucieuse, qu'on a pu entendre ce qu'il y avait sur cet enregistrement. Alors, il est très dégradé, il est très imparfait, mais quelque part, quand tu sais que, avec des moyens purement, j'ai envie de dire, de camp scout, en quelque sorte, tu pouvais enregistrer et fixer la réalité sensuelle d'un son, c'est quelque chose qui est absolument fascinant.
C'est assez magique. En fait, ça prouve aussi que c'est une vieille fascination de pouvoir enregistrer la musique.
Et d'ailleurs, enregistrer tout court, la voix humaine.
Oui, c'est ça. Oui, pardon. Déjà, d'enregistrer du son, c'était complètement fascinant quand c'est arrivé, on va dire pour simplifier, au 19e siècle. Fin du 19e siècle, on commence à avoir les premiers enregistrements sonores. Mais la vraie explosion, c'est le 20e siècle, avec un effet crescendo qui allait de pair avec les techniques de restitution sur vinyle. Donc la musique peut pénétrer dans tous les foyers, y compris des musiques qui ont été enregistrées à l'autre bout de la planète. Et ça va encore exploser avec les Trente Glorieuses, en fait, avec la naissance d'un marché adolescent, qui, avec la naissance du loisir aussi. Donc ça retrace un petit peu tout ça, les 6 épisodes, mais la fée électricité, elle va parler de manière alors, assez simple, hein, c'est pas du tout des DVD faits pour des ingénieurs du son ou des mélomanes psychopathes, hein, c'est vraiment accessible à tout le monde.
C'est bien fait, c'est accessible, ouais. C'est clair.
Ouais. Et avec des témoignages, c'est ça qui est vraiment très chouette, c'est-à-dire que dans les témoignages, on a vraiment la génie qui est quand même assez incroyable, hein. Ça va de George Martin à Rick Rubin, à Catherine Ringer, à Christina Aguilera, à Chuck D, à Jean-Michel Jarre, qui est hyper intéressant. Revu mon jugement sur Jean-Michel Jarre à ce propos.
Steven Wilson aussi.
Il y en a vraiment énormément. Et donc le premier, voilà, en quoi l'électricité a pu changer la manière de jouer de la musique. La deuxième, c'est la magie du studio. Dans un studio, en fait, ce qui se passe, c'est assez magique, c'est qu'en fait, c'est la rencontre entre des musiciens créateurs, mais aussi un ingénieur du son qui, pendant longtemps, a été quand même un véritable sorcier, qui savait où mettre les micros, les branchements, et puis le producteur, cette espèce d'incarnation qui peut parfois faire peur. En fait, le producteur, c'est pas seulement celui qui ramène l'argent. Là, en l'occurrence, c'est surtout celui qui va ramener les idées, qui va faire une sorte d'arrangement musical.
La patte artistique.
C'est ça.
C'est oui, la magie du studio. C'est des musiciens qui se rencontrent, parfois des bibliothécaires.
La blague est tombée à plat. C'est pas grave. Ouais, moi, elle me fait rire.
Je suis coutumier. C'est ma patte artistique à moi.
Donc le troisième épisode, c'est donc c'est vraiment sur le producteur. Qu'est-ce que c'est que son rôle dans le processus créatif et la réalisation musicale. Et je vous jure que c'est passionnant. Hein. C'est vraiment, on arrive sur des albums clés de l'histoire de la musique, avec forcément des moments humains de rencontres, de clash, des moments de doute, et à quel point le producteur peut, voilà, réussir à faire sortir le meilleur. Des musiciens, même des choses qu'ils n'avaient pas prévues à la base. Hein. Pour les Beatles, les cas sont très fréquents.
Pour Nirvana aussi.
Exactement, je l'avais sur le bout de la langue. Et pour pas mal de musiques qui peuvent être aussi paraître plus légères, le producteur, il a encore un rôle hyper important. Le quatrième épisode s'appelle « Trouver sa voix ». Parce que forcément, de tous les instruments qu'on peut enregistrer, la voix humaine, en fait, c'est celui qui est le plus délicat. Le plus subtil et il y a une sorte de quête du Graal, parce qu'en plus pour un musicien, la voix c'est quelque chose de très personnel, donc on n'a pas forcément envie de la livrer, on a envie parfois de la trafiquer, et donc derrière on va avoir aussi toutes les évolutions actuelles du vocodeur, de l'autotune, qui peuvent parfois, pour les puristes...
Tu peux pas t'empêcher de parler de PNL, hein, c'est plus fort que toi.
Voilà, on peut en faire tout et n'importe quoi, mais comme souvent en art, hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont parfaitement... inécoutables pour moi et qui sont très moches, et puis au contraire il y a des choses avec de l'autotune et du vocodeur qui sont juste très créatives, très belles.
On a d'ailleurs je fais une petite aparté sur une de nos acquisitions récentes en 33 tours, qui est un disque qui s'appelle Floatus du groupe Lamb Chop, qui à la base est un musicien de musique country et là qui a dévié vers l'électro et qui utilise justement le vocodeur d'une façon vraiment inhabituelle et inattendue. Mmh. Et c'est un disque qui est très, très lyrique, je dirais.
D'accord.
Et c'est un bon exemple justement de l'auto-tuning qui est utilisé non pas comme une fin en soi ou comme une espèce de vernis
pour masquer la misère,
plus ou moins attendu ou espéré, enfin, ou pour plutôt rentrer dans une case radiophonique de programmateur, là, je sais pas quoi, mais voilà, vraiment quelque chose qui est utilisé avec délicatesse, avec subtilité, dans une intention artistique manifeste.
Ah ouais,
et ça porte, enfin, en tout cas moi j'ai été sensible.
J'avais un autre exemple avec le dernier album de Vampire Weekend, qui est un groupe pop que j'aime beaucoup, assez créatif. Et voilà, il y a des moments avec un gros vocodeur qui peut paraître dégoulinant, et sauf que ça marche vraiment bien. C'est assez bluffant. Le cinquième épisode, en fait, ça parle des différents supports. Il s'appelle du 78 tours au fichier MP3. En quoi est-ce que l'évolution des supports d'écoute a entraîné des changements d'utilisation pour nous, en fait, pour le public? En quoi ça change la donne? Comment est-ce qu'on reçoit les morceaux? Et puis bah, derrière, ouais, y a des controverses assez vives, hein, sur les puristes du vinyle, ceux qui détestent le MP3, ceux qui n'en ont rien à faire de la cassette, etc. On a des querelles de chapelle assez... C'est féroce.
La cassette, elle devrait mettre tout le monde d'accord. C'est pourri.
Oui. Et puis le dernier, parce que le temps passe et qu'il faut conclure, s'appelle Génération Sample. Le sampling, c'est en fait a complètement révolutionné. Alors ça, je l'ai vraiment appris avec ce documentaire. On le sait pour le rap et les musiques électro, voilà, on se doute bien. Hein. Mais en fait, finalement, toutes les musiques actuelles ont été touchées par l'art du sampling, avec des musiciens qui ont été complètement fascinés par l'arrivée de ce nouvel instrument. C'est-à-dire que finalement, le fait de pouvoir enregistrer d'autres sources sonores, comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans sa musique, c'est tout sauf de la triche, et ça c'est hyper intéressant. Il y a notamment Akhenaton d'IAM qui en parle très très bien, à quel point l'artiste de toute manière par définition s'inspire toujours du monde qui l'entoure, il n'est jamais isolé dans une bulle, et l'art du sampling c'est exactement ça qui se passe.
Donc l'artiste et le législateur, ils auront peut-être des points de vue légèrement différents sur cette question.
Oui, on est d'accord.
Mais c'est vrai que le procédé créatif de réemploi et de collage, il a un équivalent en art hein, depuis longtemps. Et effectivement, quand on voit des collages, que ce soit Ernst, que ce soit Prévert, c'est évidemment des collections originales et qui ont leur sens propre.
Ouais.
Donc c'est... Alors, je ne sais plus s'ils le disent dans le documentaire... je crois que le premier sample, ou un des tout premiers samples, c'était Lalo Schifrin sur la BO de Enter the Dragon. Et il avait utilisé un des cris de Bruce Lee, c'est donc le premier long métrage de Bruce Lee, et, dans lequel il joue. Et il avait utilisé sa voix quand il crie, quand il porte des coups, pour l'intégrer dans sa musique.
D'accord. Il y a une autre anecdote qui est assez drôle, justement, c'est Akhenaton qui explique quand ils ont fait avec IAM l'Empire du côté obscur, qui parle de Star Wars, eux, leur kiff, ça aurait été de pouvoir sampler la marche impériale, hein, donc de John Williams. Et John Williams se refusait en disant non, c'est ma musique. Et ce qui est quand même assez drôle, c'est que la marche impériale est quasiment calquée sur la marche funèbre de Chopin, en inversant les accords, en fait. Donc, voilà, il y a une espèce d'ironie, genre, touchez pas ma musique, mais moi, par contre, je peux le faire. Voilà, donc ça s'appelle Soundbreaking, on pourrait en parler des heures avec Guillaume, il faut vraiment nous arrêter un moment. Soundbreaking, vous pouvez le trouver à la Centrale et aux Fontaines, un coffret 6 DVD, vraiment accessible à tous, et vous n'allez plus jamais réécouter la musique pareille.